infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir. C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Et bonjour.
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 Nous sommes le vendredi 27 février 2026. Il est 12h passées de 31 minutes et c'est l'heure des infos choisies.
Oui, bienvenue aux infos choisies 88.4 sur Radio Galère et en Avignon, Radio Ayoli en podcast. Aujourd'hui, il est question de coup de balai ministériel, de foot féminin, vive l'Olympique de Marseille, allez l'OM, et de confusion entre fraude fiscale et sociale à l'Assemblée nationale. Et on reviendra bien sûr sur les rencontres antimilitaristes qui a eu lieu la semaine dernière.
Et en édito, je voulais parler de l'Iran, parce que c'est un sujet dont on a un peu parlé les semaines passées, mais je trouve pas assez. En Iran, on a des répressions de masse qui se déroulent depuis des mois maintenant, et un silence médiatique qui est, à mon goût, assez présent. Pour revenir sur les faits, fin 2025, il y a des mouvements de protestation qui naissent en Iran. En cause, principalement, c'est la hausse du rial, donc la monnaie iranienne, et donc une augmentation générale du coût de la vie, globalement, en fait, une crise économique. À la base, ces protestations, elles partent des bazars d'Iran, mais elles ont très vite rejoint d'autres sphères de la société iranienne. Les étudiants et étudiantes ont rejoint le mouvement. Et donc, la raison de tout ça, c'est des problématiques économiques causées notamment par la politique monétaire nationale, mais aussi par des sanctions américaines. Et au-delà de la question économique, par la suite, il y a aussi des questions politiques qui naissent avec des appels à la démission, enfin, à la fin du régime des mollahs, en tout cas. À partir du 8 janvier, il y a la répression de ces mouvements-là qui prennent un nouveau tournant, c'est-à-dire qu'à partir du 8, Internet est brutalement coupé, et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Toutes les informations que l'on a, c'est par quelques fuites d'Internet à droite à gauche, et par des Iraniens et Iraniennes qui se rendent à la frontière avec l'Égypte. Donc ce qu'on sait de ces informations-là, c'est que les protestations sont réprimées avec des tirs à balles réelles, qu'il y a des milliers d'arrestations, et là on parle du 8 et du 9, donc vraiment une répression hardcore dès les premiers jours de blackout d'Internet. Selon les témoignages, les hôpitaux ressemblent à des scènes de guerre, il y a du sang partout, bon, ce qui peut arriver dans un hôpital, mais les médecins témoignent du fait que c'est des vraies plaies de guerre en fait, qui les elles ont à soigner en Iran, alors que ce sont des manifestants et manifestantes. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est un massacre d'une ampleur inédite, que la répression dépasse tout ce qui a été vu depuis ces vingtaines dernières années, et même en Iran, qui n'est pourtant pas un pays connu pour un respect des droits de l'homme exemplaire. La rapporteure spéciale des Nations Unies, Mai Sato, s'y rend le 20 janvier et témoigne, selon elle, c'est une approximation de 20 000 morts. Pourquoi une approximation comme ça? Parce que c'est très compliqué de chiffrer précisément la quantité de morts et de mortes en Iran, parce que du coup les autorités utilisent toutes sortes de mécanismes pour essayer de minimiser la quantité de morts manifestants. Parmi celles-ci, des dissimulations, c'est-à-dire qu'au moment où on vient récupérer ces morts, entre guillemets, à l'hôpital, les autorités demandent bien souvent de signer un papier qui atteste que cette personne est morte en tant qu'elle protégeait le régime et non pas en tant qu'elle était manifestante, ce qui est du coup faux la plupart du temps. Il y a aussi des disparitions forcées, toutes sortes de manipulations médiatiques pour faire passer la quantité de morts pour bien moindre par rapport à ce qu'il n'est et pour faire passer les protecteurs et protectrices, mais surtout protecteurs du régime pour ceux qui sont vraiment les martyrs. Human Rights Watch, c'est la principale source que l'on a en termes d'exactions qui sont commises et en termes de morts, recense selon les derniers chiffres 7007 morts avec 11000, plus de 11000 qui sont encore en examen, mais du coup c'est probablement énormément plus en fait. De toute façon, on s'accorde à dire qu'il y a plusieurs milliers de morts. Et ça, on se l'accordait déjà en fin janvier, sachant que la répression, elle a commencé début janvier, donc vingtaine de jours, on était à peu près à 1000 morts par jour en fait, bon, concrètement. Sachant que du coup, je vous en ai parlé des tentatives de dissimulation par les autorités, et au-delà de cette question du nombre de morts, il n'y a pas que à focaliser là-dessus, la répression elle s'évalue sur plein d'autres leviers. Le fait que déjà, il y a énormément d'arrestations qui, bon, je parle encore de mort, désolé, finissent souvent par des condamnations à mort. Là, très récemment, on a eu une information selon laquelle 22 personnes ont été condamnées à mort, parmi lesquelles 2 mineurs. Donc, c'est une information qu'on a reçue, c'est assez fou. Donc, il y en a probablement beaucoup plus. Voilà, donc des arrestations, des témoignages de torture, de toutes sortes d'exactions. Et des les personnes qui témoignent sont forcées à témoigner devant la télévision iranienne, donner des faux témoignages, dire des informations fausses pour se faire passer comme des coupables. Enfin, bon, toutes sortes de choses. On sait que ce qui sort est assez faux et assez minimisé. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que le mouvement continue, probablement, et la répression aussi. Pourtant, le traitement médiatique que j'observe met l'accent, quand on parle d'Iran ces derniers temps, sur deux autres aspects. Trois ces derniers jours. On parle de Starlink. Starlink, c'est une entreprise de Musk qui lui permet, grâce à des satellites, de proposer une alternative aux moyens habituels d'avoir accès à Internet. Donc, en Iran, pourquoi est-ce que ça fait l'actualité ? C'est parce que c'est ce réseau-là qui a dû être éteint en quelque sorte pour couper Internet et que c'est aussi ce réseau-là qui a permis plus ou moins des fuites d'informations. Donc, ça, on parle de ça dans ce contexte-là. Bon, très bien, merci Musk, super. On parle aussi de la militarisation américaine dans la zone du Moyen-Orient, enfin dans la zone de l'Iran en particulier, parce que qu'est-ce qu'il y a en Iran ? Il y a du pétrole d'une part, et on le sait, les États-Unis adorent le pétrole, et il y a aussi un enjeu nucléaire qui a fait l'objet de la guerre des 12 jours il y a quelques mois. Je mélange beaucoup de choses. Tout ça pour dire qu'en ce moment, ce qui fait l'actualité en Iran, c'est Trump, très concrètement, qui déploie ses porte-avions dans le Golfe, qui déploie toutes sortes de joyeusetés militaires, qui négocie à droite à gauche pour un accord avec l'Iran sur le nucléaire, en ne parlant jamais, ou alors au détour d'une conversation, des populations et de la répression qui est subie. Ces derniers jours, on parle aussi de Mahdi Esfandiari, ça c'est vraiment, enfin parce que là, hier ou avant-hier, elle a été condamnée à un an de prison pour apologie du terrorisme en France, et voilà, on parle d'elle parce que c'est une ressortissante iranienne en France. Bon, voilà. Certes, ces infos sont probablement importantes, c'est bien d'en parler, mais je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui est très important, celui dont je vous parle depuis le début, le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de morts en 2 mois, pardon, je m'emporte un petit peu, que c'est un massacre de masse qui dépasse tout ce qui a été connu en Iran et que la contestation, les mouvements continuent pourtant. Donc un certain courage qui, je pense, devrait être mis en avant. Moi, je voudrais savoir, je voudrais avoir plus d'infos sur le nombre de morts, même s'il ne faut pas se focaliser là-dessus, sur l'ampleur de la répression, ce qu'elle signifie concrètement. Je voudrais avoir des témoignages, je voudrais avoir vraiment des voix iraniennes, en fait, et pas seulement que l'on parle du nucléaire qui existe dans d'autres pays. Et certes, ce serait une mauvaise nouvelle si l'Iran avait le nucléaire, de la même façon que c'est une mauvaise nouvelle que la France, que les États-Unis aient le nucléaire de façon générale. Voilà, c'était mon édito pour aujourd'hui.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Choisies, vendredi,
les
midi
infos 30. Choisies, vendredi, midi 30.
Et Rachida Dati a démissionné du ministère de la Culture. Ciao, bye bye. Elle y aura passé 2 ans pendant lesquels elle a notamment essayé avec acharnement de fusionner l'audiovisuel public dans une seule grande holding. Alors, je fais un petit retour en arrière. C'était fin juin 2025 à l'Assemblée. L'adoption de la mention de rejet visant ce projet de réforme de l'audiovisuel public a mis brutalement fin à l'examen de la proposition de loi. C'était un revers de taille pour la ministre de la Culture. Une nouvelle entité appelée France Média devait regrouper France Télé, Radio France, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, en prévoyant la fusion des entreprises publiques. Ce regroupement devait permettre, selon les instigateurs, donc la ministre, de se renforcer, de faire face au risque d'affaiblissement du service public dans un contexte de concurrence exacerbée. Et selon les personnes salariées, le retour du projet de loi sur la fusion de l'audiovisuel public était un montage bureaucratique et politique qui menaçait gravement l'indépendance de Radio France, sa mission de service public et l'existence même de certaines antennes. Sous prétexte de réforme, c'était une déstabilisation et un affaiblissement organisé, une réduction probable du nombre de journalistes et la détérioration des conditions de travail. Donc comment Dati pouvait justifier la création d'une holding autrement que par la volonté de réduire les coûts, alors que ces médias sont leaders d'audience en existant séparément. Aussi parce qu'il y avait des enjeux personnels et politiques derrière. Rachida Dati avait accepté de rejoindre le gouvernement d'Attal en janvier 2024 en échange de l'appui du camp présidentiel lors des municipales dans la capitale. Un pacte s'est lié avec Macron, jamais là de recruter dans les rangs de la droite par ailleurs. Donc Dati, on le sait parce que les médias le répètent, est candidate LR à la mairie de Paris et cherche donc un maximum de soutien côté macroniste. Cependant, une ombre au tableau liée, je pense, aux révélations de Mediapart, Dati sera jugée en septembre prochain pour corruption. Puisque l'émission d'investigation complément d'enquête en juin dernier avait montré comment l'ex-garde des Sceaux avait reçu 300 000 euros de GDF Suez, alors que Dati refusait depuis 10 ans tout lien d'intérêt avec cette entreprise. 300 000, je trouve que ça fait effectivement un peu plus cher qu'un cadeau d'anniversaire. Elle risque notamment l'inéligibilité, entre autres. Bon, mais on ne va pas s'éterniser dans les infos choisies sur l'appétit capitaliste des classes dirigeantes au détriment des autres. Alors, tant qu'à parler d'audiovisuel public, j'aimerais mentionner les guerres d'influence en cours. Parce qu'il n'y a pas seulement le LR qui souhaite déboulonner l'audiovisuel public, il y a l'extrême droite, et notamment les médias appartenant au groupe Bolloré. Fin novembre 2025, donc il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, le service public de l'audiovisuel fait l'objet d'une médiatique commission d'enquête parlementaire où elle est lancée à l'initiative de l'extrême droite. Son reporter Charles Alloncle, c'est un UDR, Union des droites pour la République, dénonçait les atteintes répétées à la neutralité, à la transparence ou à l'impartialité de l'audiovisuel public. Ouais, ça pique les oreilles, hein, parce que c'est ça la renversionnique. L'extrême droite utilise les mots qui sont portés justement à charge contre les médias Bolloré pour les retourner, même si ça fait plof. Hein. L'idée, c'est d'agiter, de lancer des accusations, de balancer de la merde, tout ça pour créer de la confusion. Donc cette commission d'enquête n'était que le prolongement sur le terrain parlementaire d'une bataille coordonnée lancée depuis plusieurs mois par la sphère politique médiatique d'extrême droite contre les médias du service public. D'un côté, le Rassemblement national et ses alliés ont martelé à l'envi leur souhait de privatiser l'audiovisuel public une fois au pouvoir. Et de l'autre, la Bolloré-sphère, comme pas mal de gens l'appellent, pointée du doigt et régulièrement sanctionnée pour son mépris du pluralisme, tentant de détourner l'attention en ciblant France Télévisions et Radio France. Et face à ces attaques, donc des enquêtes de France 2 et Reporters sans frontières avaient justement rappelé par des faits, hein, pas juste de l'idéologie, comment CNews ne respecte pas ses obligations de pluralisme et propage massivement ses obsessions identitaires. Donc depuis des mois, les médias Bolloré se jettent sur la moindre opportunité pour taper sur l'audiovisuel public. Voilà une sorte d'état des lieux. Moi, je ne cherche pas particulièrement à soutenir coûte que coûte certains médias publics, que je trouve par ailleurs critiquables sur leur traitement journalistique de l'information. Mais aussi, je vois l'importance de maintenir un service public de l'information qui ne soit pas à la solde de grands patrons aux convictions réactionnaires et libérales.
Et d'ailleurs, notre nouvelle ministre de la Culture est donc Catherine Pégard, journaliste et directrice d'établissement culturel à plusieurs reprises, donc on pourrait se dire bonne nouvelle. Et ben pas tant que ça, parce que quand on regarde en fait, journaliste au Point, à Europe 1 et présidente du château de Versailles, en faisant un peu des allers-retours entre l'Élysée, donc conseillère de Nicolas Sarkozy, puis conseillère culture de Macron, puis aujourd'hui ministre de la Culture, donc on peut dire qu'on reste sur une ligne macroniste.
Elle est dans les petits papiers.
Normal, quoi.
Shut up! capitale qu'on nous préfère. Et ce sont les prix dégueulasses, ou bien c'est ces quartiers d'affaires. Mais qu'a-t-elle donc que bien de plus, ce capital que l'on déteste, de s'être craché à la face pour qu'on la fuit comme la peste. Et si un jour je monte sur Paname, tu me feras visiter ton pays, les bars de punk et les ruelles sales qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Et si un jour tu descends à Marseille, je t'emmènerai avec quelques bouteilles voir le malheur bien loin des réverbères du ciel bleu et du sel de la mer. Elle a la banque qui nous vend, elle a l'Élysée qui nous ment, elle a la commune déchue, elle a le pouvoir qui nous tue, elle est le symbole du pays, elle est le symbole du mensonge, le symbole des colonies et de la honte qui nous rend.
Et vous venez d'écouter Pen Capital de Cheap Entertainment, groupe de punk marseillais que je salue. Ils joueront le 13 mars pour la Punky Reggae Party à l'Inter. Il y aura aussi Stiglitz, un groupe de punk de jeunes, et la section du Rouge Sound System.
Le journal des sports choisis sur Radio Galère.
Donc aujourd'hui, actualité sportive, actualité ballon, actualité olympique de Marseille. Alors pas l'équipe masculine, mais l'équipe féminine. Donc oui, le club l'a annoncé ce lundi 23 février, les Olympiennes joueront leur premier match au Vélodrome. Donc c'est une volonté du club de mettre en avant son équipe féminine. Pour l'occasion, ils ont mis en vente les 67 000 places du stade et elles sont gratuites. Alors c'est dommage que ça arrive que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le foot féminin en général. Et les joueuses marseillaises méritent vraiment aussi de connaître la ferveur des tribunes marseillaises. Donc ça sera un match plutôt grand public et familial. N'hésitez pas à aller prendre votre place. C'est dans un mois, c'est le 28 mars. Les Olympiennes recevront l'équipe de Montpellier. Alors pour l'instant, elles sont 9e au classement, à 6 points du premier relégable, étant à ce jour Montpellier. Donc ça sera un match assez important pour se maintenir en première ligue, le nom donné à la première division du foot féminin.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et je vais vous parler maintenant de la loi qui est actuellement à l'Assemblée cette semaine contre les fraudes sociales et fiscales. Donc c'est 4 mois après son adoption au Sénat puis en commission à l'Assemblée en décembre, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a commencé d'être examiné ce mercredi 25 février par l'ensemble des députés. Donc l'objectif du texte est dirigé en priorité par le gouvernement et de récupérer au moins 2 milliards d'euros en recouvrement dès 2026. Donc, un texte prévalant pour les fraudes de particuliers ou d'entreprises, organisées ou occasionnelles. Donc, un grand fourre-tout quand même. Et surtout, ce qui est choquant dans ce texte, j'espère que vous l'avez entendu quand je vous ai énoncé la loi, c'est la mise en miroir de la fraude fiscale et de la fraude sociale, comme si les deux phénomènes méritaient un signe égal, comme si leurs enjeux, leurs dimensions et leurs ressorts étaient identiques. La fraude fiscale sont des combines que mettent en place des entreprises pour ne pas tout déclarer, notamment, et la fraude sociale, c'est souvent un mythe créé par la droite pour fabriquer le mérite de celles et ceux qui se lèvent tôt pour aller trimer. Donc rappelons que les gouvernements libéraux ont une propension certaine à baisser les budgets des aides sociales en offrant des ristournes fiscales aux plus riches. Donc ce texte est très asymétrique. Donc sur le volet social, la fraude ferait perdre apparemment 13 milliards d'euros à l'État contre 100 milliards lorsqu'on parle de fraude fiscale. fraude sociale. Du coup, c'est vraiment énorme, entre 13 milliards et 100 milliards. Et paradoxalement, plus de 2/3 des articles de ce projet de loi visent la fraude sociale et non la fraude fiscale. Dans un contexte où l'exécutif a rejeté la taxe Glucksmann, qui visait à instaurer un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, ça fait un peu rigoler quand même. Ou grincer des dents, surtout. Sur le fond, le texte prévoit de renforcer l'arsenal législatif pour permettre la détection des fraudes. Notamment, un des articles de cette loi, c'est tarir les sources de revenus occultes ou illicites. Vous voyez, ce genre d'articles qui font peur, qui sont fourre-tout, qui veulent tout et rien dire. Pour mieux, bien sûr, sanctionner leurs bénéficiaires. Alors, j'ai trouvé 3 choses, notamment dans ces articles, mais je pense que ça vaudrait le coup de plus fouiller et de demander à des gens qui ont vraiment lu le projet de loi en entier, qui pourraient mieux nous en parler. Ça ne sera pas aujourd'hui, mais pour finir, je vais vous donner 3 exemples. Donc, en cas d'indice sérieux de fraude, France Travail aura accès aux données téléphoniques des allocataires pour lutter contre l'usurpation d'identité et pourra vérifier qu'une même connexion n'a pas servi à plusieurs comptes de demandeurs et demandeuses d'emploi. C'est foireux, par exemple. Moi, je peux aider des gens, des fois, à faire des déclarations. Donc, ça veut dire qu'on peut me sanctionner, alors que moi, je peux aider des personnes qui ont du mal à lire et écrire et à faire leur démarche tout seul. Pareil pour des assistantes sociales. Je veux dire, ou si on est dans une colocation, on est plusieurs à bénéficier d'aide sociale, on peut faire sur un même téléphone. Donc, rien que ça, par exemple, c'est foireux.
Mais c'est injustifiable.
Oui. Un autre exemple, les bénéficiaires de l'allocation chômage devront avoir un compte bancaire domicilié en France ou dans la zone euro pour s'assurer du respect des conditions de résidence. Ou encore, donner à France Travail l'accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires pour mieux détecter les fraudes.
Bon, en gros, plus de voyages à Tahiti, hein, d'accord ? Même si c'est pour chercher du boulot.
Voilà. On reviendra peut-être, j'espère sûrement dessus, avec des personnes qui sont plus experts de la loi pour affiner tout ça, parce que ça va occasionner des grands changements dans nos vies.
Eh, c'est les infos choisies.
On en a parlé la semaine dernière, le samedi 21 février ont lieu les rencontres antimilitaristes Guerre à la Guerre. Alors on a retransmis en direct sur Radio Galère les prises de parole du début de la journée. C'était des témoignages de personnes originaires du Soudan, de la Palestine, des Comores et de la Kanaky. C'était vraiment intéressant et de toute façon rien ne vaut la parole des concernés pour être bien informés. Donc je vous invite à aller l'écouter en rediffusion. Vous pouvez retrouver les témoignages en ligne sur le site de Radio Galère d'ici lundi. Ils seront mis.
Tu voulais commencer par une nouvelle ?
Une petite info, vendredi 27 février, c'est aujourd'hui, ce soir, à Solidaire, il y aura le premier apéro du syndicat du logement, au cours duquel sera présenté le syndicat du logement, donc, et la mobilisation pour maintenir le rapport de force avec les agences immobilières, propriétaires, etc.
Ce vendredi 27 février, aussi à 19h à la base, aux 3 rue Pierre Roche, dans le 3e arrondissement, vous retrouverez Silence en garde à vue, mais on en parle après. Donc c'est la présentation de la nouvelle brochure marseillaise, Témoignage de garde à vue. Ça sera suivi d'une lecture et discussion réflexion sur les pratiques locales policières à Marseille et ailleurs. Ce sera l'occasion du coup de partager ses expériences, ses questionnements et ses idées, qu'on ait vécu ou non une garde à vue.
Et ce soir à 19h, il va falloir choisir entre La Base et Transit, librairie 51 boulevard de la Libération, où il y a une présentation de Le fascisme en col blanc de Xavier de Jarcy. Et si la montée de l'extrême droite dans la France des années 30 n'avait pas seulement été l'affaire de la ligne bruyante et de chefs autoritaires. Derrière cette agitation, un autre moteur se mettait en marche, une partie du grand patronat prête à s'allier aux ennemis de la République pour préserver ses privilèges. Voilà, donc ce soir à la librairie Transit. Et j'ai une autre info pour ce soir, pareil à 19h. Trois trucs pour choisir. C'est au Gyptis, c'est l'avant-première d'un film qui s'appelle Pédale rurale sur l'enjeu des personnes LGBT vivant à la campagne. Et ça sera à 19h au Gyptis.
Info aussi pour aujourd'hui, si vous avez rien à faire de votre après-midi, le local de La Marotte Mentalité Virage de Paix est ouvert, il y a besoin de bras pour préparer des sandwichs, des repas. C'est aux deux rues Espérandieu, c'est juste à côté du Palais Longchamp des 5 avenues. Donc si vous êtes disponible, passez, ça sera avec grand plaisir.
Samedi 28 février, soirée Châteaunade TPBGI, pardon. À 19h à la Darne, 27 rue de Bagne, il y aura donc, pour vous plonger dans une ambiance féline kinky festive, des cabarets, tombola et DJ carnavalesque. L'entrée est à prix libre avec l'adhésion à la Darne, à prix libre également.
À 21h30 le samedi 28 février aussi, à Millebabord, au 61 rue Consola, vous retrouverez la guerre d'indépendance algérienne en France. Donc c'est le documentariste Malek Bensmaïl qui a tendu son micro aux acteurs encore vivants de la guerre d'indépendance d'Algérie et qui s'est déroulée sur le territoire de la métropole. Donc comme à chaque mois de Ramadan, le CADSA Marseille et le FUIQP s'associent pour vous proposer des veillées dédiées aux luttes et à l'histoire des luttes.
Et bah ce dimanche, comme d'habitude, à 14h, c'est la manifestation de soutien à Gaza sur la porte d'Aix.
Mercredi 4 mars, à 18h30, on aura la présentation du fanzine Eucalyptus à Manifesten, au 59 rue Adolphe Thiers. Pascal Zahu met en dialogue le collectif Transhumanza et Maria Luisa Moura, Ischire Collectivo Mobile di Creografia Letteraria, je ne sais pas si c'est le bon accent que j'ai pris, avec le collectif South Palestine pour une réflexion ample sur les usages de la création artistique comme instrument de solidarité et de contestation politique. À 20h, le repas sera en soutien au projet des collectifs de Pascal Zahu et South Palestine.
Jeudi 5 mars, de 19h à 22h30, vous retrouverez une discussion publique sur les data centers à la DAR, qui sera animée par le nuage était sous nos pieds. Donc c'est un collectif d'enquête et de lutte contre les infrastructures du numérique à Marseille, et plus particulièrement des data centers et des câbles sous-marins.
Et voilà, c'est fini!
Voilà, oui. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Rediffusion lundi 8h pour les infos choisies. Ciao, ciao.
Merci.
Bon week-end.
Et on retrouve bien sûr maintenant à 13h15 l'agenda alternatif week-end avec Mélodie.